Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, que vous soyez en vert ou en rouge. Vous êtes évidemment tous les bienvenus dans le 32e épisode de la première saison d'une heure en série, en version confinée comme il se doit. Une heure en série, l'émission qui décrypte et analyse toute l'actualité des séries. Ce soir, nous parlerons mythologie revisitée de l'usine à rêve et revanche des minorités invisibles avec Hollywood sur Netflix, Poisson rouge bavard et exutoire voyage dans le temps avec l'agent immobilier sur Arte, et enfin Deuil en famille et comique hypochondriaque avec Neama sur Canal+.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec ce soir, non pas autour de moi, toujours pas hélas, mais pas très loin néanmoins, les confinés à Vacaen de Frenchmania. Bonsoir à Vacaen.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Vous allez bien?
Ça va mieux quand je suis avec vous. Voilà.
C'est gentil, nous tout pareil. Ariane Allard est avec nous ce soir. Je rappelle entre autres qu'elle travaille pour Cosette Positif et Frenchmania. Bonsoir Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir tout le monde.
Et évidemment, l'incomparable Benoît Lagan, que l'on peut retrouver tous les vendredis matin dans le 5-7 de Mathilde Munoz. Je vais être un peu à court d'adjectifs laudateurs. Bonsoir Benoît.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est ravi d'être encore là pour une heure en série.
Eh bien nous aussi. Et avant de commencer l'émission, un petit cadeau. La semaine dernière, Benoît a évoqué dans son effet miroir les Brigades du Tigre, et en particulier une 7e saison qui serait restée dans les cartons. Il faisait le vœu que celle-ci voit un jour le jour, et imaginer un nouveau générique interprété par Alex Baupin. Évidemment, nous étions toutes et tous d'accord avec son idée.
Bien sûr, bien sûr.
Eh ouais.
De la radio, laissez-moi pas terminer surtout, hein. Et grâce à la magie de la radio, voici ce que nous avons eu le bonheur de recevoir cette semaine.
Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Incognito, ils ont rangé leur vélo, leurs chevaux. Pendant ce temps-là, dans des romans, certains nous racontent comment faire un casse tranquillement pour tuer le temps. Je voudrais les y voir à notre place pour pas en prendre pour 20 ans.
Voilà, vous venez d'entendre la fameuse complainte des Apaches, sublimée par Alex Baupin. Et je crois qu'on peut vraiment remercier Alex
super
Baupin
pour
ce très, très beau cadeau. On est tous sous le charme de cette réinterprétation. Merci à ses musiciens de lui avoir prêté main forte. Bref, merci, merci, merci. Et j'en profite pour vous rappeler qu'Alex Baupin sera le 24 novembre au Trianon à Paris. Et je crois qu'on va toutes et tous y aller au nom d'une heure en série, réserver un rang. Vous êtes d'accord?
Ouais,
oui,
super.
Oui. Bon, ben voilà, un beau geste.
Évidemment. Allez, on commence tout de suite avec Hollywood, une série américaine de 9 épisodes disponible sur Netflix depuis le 1er mai. Il s'agit de la toute nouvelle série signée Ryan Murphy et Ian Brennan, les auteurs entre autres de Glee's Queens et de The Politician, deux incontournables plumes de la série télé qui nous plongent cette fois à Los Angeles au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le public veut oublier les traumatismes du conflit et le cinéma connaît un âge d'or. Les films se produisent en masse, les stars font rêver, mais entre le code Hays, garant des valeurs morales WASP américaines, et la politique du placard, le 7e art offre un reflet de la société majoritairement blanc, les Afro-Américains étant cantonnés aux rôles caricaturaux de domestiques et évidemment uniquement hétérosexuels. C'est dans ce contexte que trois couples, dont un interracial et un autre gay, vont tenter de percer au sein de l'usine à rêve, si destin malmené par la rigidité de façade de l'époque que les auteurs fissurent ici, rappelant entre autres les bacchanales homo chez certains metteurs en scène comme Georges Cukor, ou encore les réseaux de prostitution au quasi-grand jour qui permettaient à tout ce beau monde, filles comme garçons, de trouver un partenaire à l'ombre des regards inquisiteurs et de cette censure qui pouvait à tout instant détruire votre carrière.
It's about fame and what Hollywood does to people.
This is our screenwriter, Archie Coleman.
Pleasure to meet you.
You're colored.
I love it.
Rolling!
If we change the way that movies are made,
have Miss Lala.
I think you can change the world. I want you to be the star.
Really? If you want something, you have to declare it.
I'll do anything.
I am not just a star. I am a star maker.
Une utopie et une uchronie en forme de série luxueuse, débordant de moyens, mélangeant à la fois des personnages de pure fiction et des figures historiques telles que donc George Cukor, que je viens de citer, Vivian Leigh, Rock Hudson ou encore Henry Wilson, puissant agent de l'époque et redoutable prédateur sexuel de jeunes comédiens en quête de gloire. Côté casting, on retrouve les fidèles de Murphy et Brennan, parmi lesquels David Curran-Swatt, qu'on avait vu dans The Politician, Darren Criss, qu'on a vu dans Glee et Versace, mais également Jim Parsons, l'acteur de The Big Bang Theory, est-il besoin de le rappeler, elle est toujours géniale, le, avec un E et un S, Holland Taylor et Queen Latifah, of course. Côté presse, et ben c'est mitigé pour Vanity Fair. Le showrunner s'empêtre dans un scénario parasité par trop de rebondissements éculés, résultant une avalanche de facilités scénaristiques dont lui seul a le secret. Plus positif néanmoins pour Première. Encore une fois, le scénariste surprend et réussit à imposer un style différent, quelque part entre la farce bucolique et le biopic politiquement engagé. Idem pour Le Monde, Ryan Murphy imagine un Hollywood d'après-guerre tolérant et inclusif et signe une série réussie et addictive. Cher Benoît, vous qui n'étiez pas à Hollywood à cette époque-là et vous qui ne faites partie d'aucune minorité, qu'avez-vous pensé justement d'Hollywood ?
J'ai trouvé ça extrêmement jouissif de bout en bout. J'ai adoré, à tel point que je me suis dit qu'il y avait trop peu d'épisodes, que cette mini-série aurait pu être une grande et longue série sur le Hollywood de cette époque. Alors j'ai bien aimé déjà parce que aussi j'aime beaucoup ce que fait Ryan Murphy et Ian Brennan ensemble. J'ai adoré Glee et donc il y a un côté Glee à Hollywood en 47, quoi, quand même, dans Hollywood. Donc, j'ai beaucoup aimé pour le côté extrêmement positif de la série. On voit tellement de séries qui nous montrent que des losers, que des personnages qui dégringolent en permanence, que de voir ces gens qui bagarrent et qui arrivent avec le véritable beau et grand happy end hollywoodien, la fin, la belle fin hollywoodienne, que tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Donc, ça, c'est pour le côté pur spectateur qui est content en mode confiné de regarder une série qui lui fait du bien. Ensuite, quand on regarde bien la série, ce que je trouve admirablement bien écrit, c'est que au départ, on est dans quelque chose d'assez triste. Tout est clinquant, tout est beau, sauf que ces personnages sont un petit peu tristes parce qu'ils se disent qu'au fond, leur rêve, ils ne l'atteindront pas, ou alors que pour l'atteindre, ils seront bien obligés de faire des saletés. Et puis, petit à petit, il y a un vrai twist et tout d'un coup, ils y arrivent. Et quand ils y arrivent, et notamment quand ce film arrive sur l'écran, ce fameux Peg qui devient Meg, je le trouve admirable, ce film. Ou les bouts qu'on nous en montre, mais moi, j'aimerais le voir, ce film. En fait, je sors de la série en me disant, mais je veux voir ce film exactement comme quand j'avais vu la série Smash il y a quelques années sur la création d'une comédie musicale sur Marilyn Monroe. À la fin des deux saisons, j'avais envie de voir la comédie musicale. Et bien là, c'est exactement ce qui est à l'œuvre. Après, il y a un pur plaisir donc, de série film de retrouver tous les comédiens que vous venez de citer, mais aussi Dylan McDermott depuis The Practice et American Horror Story, de voir Rob Reiner passer par là aussi, donc le réalisateur de Quand Harry rencontre Sally, puis qui avait joué aussi dans des grandes sitcoms dans les années 70, Patty LuPone, enfin bref, un grand plaisir de sériephile aussi, avoir tous ces personnages. Et puis, je pense que c'est important aussi que Hollywood existe aujourd'hui, parce que oui, on peut penser que c'est naïf, on peut penser que montrer que en 47, dans cette uchronie finalement, Hollywood réussit à intégrer les minorités, c'est une vraie leçon pour le Hollywood d'aujourd'hui, et ça aussi, ça fait du bien. Il y a tout l'épisode autour des Oscars. Là, je sens Ryan Murphy, Ian Brennan en train de sauter de joie en disant, vous voyez ce qu'on vous montre, là, vous voyez ce qu'on vous montre, ben, nous, on se fait plaisir. Ah ben, nous aussi. De
et nous aussi, de... ouais.
Voilà,
ouais.
Et nous aussi.
Mais alors, moi, j'ai un petit problème. J'ai, comme vous, appréciez effectivement le luxe, la fluidité du récit, mais je ne vois pas très bien à quoi sert cette utopie. Ariane, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en gros, la série ne sert pas à grand-chose ? À part, effectivement, rappeler qu'il y a eu ostracisme et qu'aujourd'hui encore, ça existe. Mais je trouve qu'il y a une absence de finalité, moi, qui m'a un tout petit peu interrogée.
Oui, moi, j'ai ressenti un peu la même chose que vous. En tout cas, je suis un peu moins enthousiaste, moins qu'on puisse dire, que Benoît. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'on appellera une feel-good série. Hein. Voilà, très optimiste. C'est un monde fantasmé, très positif. Mais franchement, très honnêtement, moi, j'ai trouvé ça globalement un peu cucu et bien pensant. Disons gentillet, un peu niais même parfois. Je trouve que scénaristiquement, c'est quand même pas très, très fouillé, pas très, très intéressant. Donc oui, cette diversité, évidemment, elle est bienvenue hier comme aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, en plus, on est après-guerre, donc il y a effectivement un élan positive, je pense, historiquement, hein, socialement parlant, dans la société américaine. Ok, tout ça est très bien. Mais moi, je trouve qu'on a quand même le sentiment, très souvent et très longtemps, disons dès les deuxième, troisième épisode, d'être dans une espèce de représentation assez superficielle d'un monde qui, moi, pour ma part, j'ai trouvé qu'il restait sans arrêt à distance. C'est-à-dire que tout est glamour, mais tout est un peu toc aussi. Et tout manque un petit peu de profondeur et d'incarnation. Je pense que c'est aussi renforcé par le côté lisse, sans aspérité et très stéréotypé. Pour ma part, j'ai trouvé des personnages et des acteurs de premier plan de cette série. Je pense à Jack Costello, le personnage qui est interprété par David Corenz Sweet, c'est ça, je crois, son nom, et Camille Washington, la jeune première afro-américaine. Pour moi, ce sont des emblèmes, ce sont des concepts, ce sont aussi des porte-manteaux parce qu'ils sont très jolis, mais ils sont très, très lisses. Mais à aucun moment, j'ai eu le sentiment que c'était des êtres de chair et de sang. Mmh. Et je trouve, en revanche, que les personnages de second plan, que ce soit d'ailleurs les personnages fictifs comme les personnages réels, sont beaucoup plus denses, beaucoup plus incarnés. Ça vient peut-être des acteurs, je ne sais pas. Ça vient probablement aussi de leur trajectoire et de leur parcours. C'est les seuls moments, moi, où j'ai ressenti de l'émotion, notamment ben, par rapport au personnage, je ne sais pas, incarné par Queen Latifah, qui est celui d'Hattie McDaniel, ou le personnage que moi, je ne connaissais pas, de l'actrice asiatique, c'est ça
Sino-américaine.
Qui a vraiment existé. Et je me disais d'ailleurs, en regardant ce personnage très beau, qu'elle pourrait elle-même être l'objet d'une série à part entière, parce qu'elle a un parcours absolument incroyable. Voilà, il lui donne une chance, tant mieux, c'est génial. Mais moi, globalement, même si j'ai aimé le côté glamour, luxe, etc., et beauté, et diversité, j'ai trouvé que c'était un peu lisse tout ça, et un peu gentil.
Ava, à vous de départager nos deux chroniqueurs. Donc vous êtes de quel côté, celui de Benoît ou celui d'Ariane ?
Oh bah, y a pas photo, hein. Je suis du côté de Benoît aujourd'hui. Moi, je suis très emballée, en fait, par cette série. Et pour répondre à votre question, Xavier, sur cette série a-t-elle du fond? En fait, moi, j'ai l'impression que Ryan Murphy poursuit son entreprise de réparation, de réhabilitation par la fiction d'individus que l'histoire, la société et même l'écran, hein, bien sûr, a oublié, a offensé. Et d'une certaine façon, Murphy, c'est un peu l'anti-Tarantino, hein, qui lui aussi fait un cinéma de la réparation, s'attaquant à des grands moments de l'histoire, hein, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de sécession, la fin de l'âge d'or hollywoodien, pour en réécrire sa version et venger ses idoles. Et je vous disais que c'était l'anti-Tarantino parce qu'évidemment, dans le monde utopique de Murphy, tout est queer et slip kangourou, et les représentations et les aspirations.
Ça, c'est pas pour vous déplaire, bien sûr.
Et non, absolument pas. Et les représentations et les aspirations ne sont pas les mêmes. Et le sens de la réparation est plus politique que blagueur. Pour cette série-ci, Murphy habille son habile critique du voile du grand mélo. Il nous plonge, comme vous le disiez, au cœur de l'usine à rêve, Hollywood, où on va suivre le parcours de plusieurs jeunes gens, hétéros, gays, bi, blancs, noirs, asiatiques, acteurs, actrices, scénaristes, réalisateurs, tous issus de milieux différents, mais qui ont tous le même but, aller au bout de leurs rêves, alors même que l'industrie du cinéma les empêche de rêver parce qu'elle limite son monde et sa vision aux normes bourgeoises et orthodoxes de l'époque. Et ce que fait Murphy, eh ben, c'est imaginer une histoire qui reprend le principe du fameux « what if » et si une femme avait, dès les années 30, dirigé un grand studio, et si une actrice noire avait eu le premier rôle dans une grosse production, et si un acteur gay n'était pas obligé de rester dans le placard pour réussir, et si on n'était pas obligé d'être abusé par son producteur ou son agent. Voilà, donc c'est à la fois jouissif et troublant parce que Murphy imagine tout ça, et on se dit que oui, si ça s'était produit, bah la face du monde, elle en aurait été changée, hein, parce qu'Hollywood, comme les films, joue évidemment un rôle majeur dans la fabrique des imaginaires et des images. Et dans ce sens, je trouve que le générique est absolument magnifique parce qu'il est la synthèse du discours de la série.
Oui,
on voit les principaux personnages, mais oui, escalader ensemble les lettres qui forment le mot Hollywood érigé sur le mont Lee. Et c'est l'ascension et la victoire des laissés pour compte, des invisibles, de ceux dont l'emploi n'a servi qu'à nourrir les stéréotypes. Donc voilà, une société plus inclusive, plus ouverte, plus représentative, c'est ce pourquoi Murphy milite. Et je trouve que la série donne corps à ce souhait de la plus magique des manières. J'avais des réserves sur sa précédente série The Politician, mais là, j'ai été complètement comblée.
Merci beaucoup,
tout à
Ava.
Fait d'accord.
Non, Benoît, non. La fin sera réservée à Ariane, qui a retrouvé le nom de cette actrice d'origine asiatique. Et elle a raison, on va le citer.
Anna May Wong.
Mais oui. Anna May Wong. Donc, voilà, c'est d'autant plus important, je pense, que pour le créateur de la série, c'était aussi important de réhabiliter et son histoire et sa trajectoire. Donc, autant la citer.
Merci à tous les trois. Nous venons d'évoquer Hollywood, une série donc américaine de Ryan Murphy et Ian Brennan, diffusée sur Netflix depuis le 1er mai. Shine your light now.
make it in the neighborhood. They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? I lost my memory in Hollywood. I've had a million visions, bad and good. There's something in the air in Hollywood. I tried to leave it, but I never could. Shut your mouth now. This time it's got to be good. You get it right now, yeah. Cause you're in Hollywood.
Et vous avez reconnu évidemment le tube de Madonna, Hollywood, of course, extrait d'American Life, le
bien joué
de la sulfureuse chanteuse, sorti en 2003. Oui, merci à Muriel Pérez d'avoir eu cette très bonne idée, un album entièrement rock et folk, produit par Madonna et Mirwais, où l'artiste questionnait le rêve américain et le matérialisme, ce qui lui a valu à l'époque un véritable boycott de la part des médias américains. Et puis on se souvient bien évidemment, côté trouble sexuel, du clip de Jean-Baptiste Mondino.
France Inter. Une heure en série.
Et il est temps de replonger dans l'histoire, le miroir de la télévision avec Benoît Lagan et votre effet miroir en mode confiné, évidemment. L'effet miroir devient l'effet Madeleine pour une plongée dans l'histoire du petit écran tricolore. Et cette semaine, trois petits points de suspension et voix caverneuse. C'est la nuit au musée.
Et oui, c'est un peu
raté
ça,
ma voix caverneuse.
Alors, après la brigade des moustachus la semaine dernière, ce soir, un autre grand classique du premier âge d'or de la télé française, une œuvre spectrale et muséale apparue pour la première fois il y a tout juste 55 ans. C'était au printemps de l'année 1965, une série qui a hanté les postes cathodiques français pendant 4 dimanches, en réunissant pas moins de 10 millions de téléspectateurs, soit presque un quart de la population française. Tout le monde à l'époque n'avait pas la télévision, la France comptait 48 millions d'habitants, faites donc rapidement le calcul. Imaginez ce que cela pouvait représenter en audience, sans doute l'équivalent aujourd'hui de la finale de la Coupe du Monde de football.
Mais que de mystère, Benoît.
Oui, donc bien
ce
sûr.
Carton de 1965, même si on a peut-être une petite idée.
Oui, mais alors encore un peu de mystère et de poésie. Ne vaudrait-il pas mieux dormir plutôt que de vouloir savoir, fermer les yeux et s'endormir sans se chercher dans un miroir ? Parce qu'une ombre sans visage, la nuit, au Louvre et de passage, ils voudront tous tenter le sort et savoir qui est
Belphégor.
Bah oui, ça c'était les paroles de la chanson de Juliette Gréco, produit dérivé en 45 tours, donc sorti au mois de juin 65, et surfant sur le succès de cette série, en mémoire pour nous, surtout son noir et blanc sublime, la musique d'Antoine Duhamel, bien évidemment Juliette Gréco, et les apparitions inquiétantes de ce fantôme en burqa, hein, qui erre dans les couloirs du Louvre. Alors 55 ans...
Là je vous laisse tout seul.
55 ans plus tard, si Belphégor tient encore bien la route, c'est que cette série réunit tous les ingrédients, en fait, d'une grande aventure populaire dans l'esprit et la tradition, finalement, des romans feuilletons, l'ancêtre des séries télé. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le scénariste Jacques Armand et le réalisateur star de l'époque, Claude Barma, se lancent dans l'adaptation de Belphégor. C'est un film muet à épisode de 1926 et un roman publié à la même époque est devenu introuvable après-guerre. Les deux créateurs de la série reprennent du coup 4 ou 5 idées phares, dont celle de la recherche d'un trésor et le fameux fantôme qui hante un musée, mais dynamisent le récit. Belphégor, en fait, c'est le cas d'école qui vient démontrer en quoi la télé des années 50 avait déjà tout compris à la puissance d'une série et du pouvoir de la télé qui réunit toutes les générations et classes sociales de téléspectateurs. Cela passe donc par des personnages et une distribution qui interpelle tous les publics. Alors il y a François Chaumette de la Comédie Française, vu au cinéma mais aussi visage récurrent du petit écran qui endosse le rôle du méchant. René Darry, figure du cinéma qui avait d'ailleurs joué dans la version ciné de 1927 qui fait son retour là en commissaire. Juliette Gréco, donc la chanteuse, mais aussi la comédienne dans un double rôle qui lui permet de se reconnecter avec toute la France devant la caméra après une carrière au cinéma notamment aux États-Unis. Et puis surtout, deux jeunes comédiens, Christine Delaroche et Yves Régnier. Ils sont beaux, ils font rêver, ils sont courageux, on s'inquiète pour eux et on les aime, c'est l'atout romantique de la série. Bref, la recette parfaite du feuilleton populaire, un mystère, du suspense, de l'étrange, une quête, de l'ésotérisme, de l'aventure et de l'amour. La série fut d'ailleurs considérée comme trop commerciale par André Malraux, ce qui explique pourquoi l'intérieur du Louvre a été reconstitué dans feu, les studios de Saint-Maurice est devenu aujourd'hui fantomatique. Alors, et si la série est aussi intéressante aujourd'hui, c'est parce qu'on peut y voir quand même les quais de Seine dans les années 60, les vues sur le Louvre, le marché aux puces de Saint-Ouen. Belphégor ne nous tend au fond pas vraiment un miroir aussi pertinent qu'on aurait pu le penser sur ce qui animait la société française de l'époque, contrairement aux séries historiques ou policières de la même époque. On était quand même dans une période de l'avant 68 et tout ça, ça se sent pas vraiment dans Belphégor, mais démontre quand même le savoir-faire français en matière de feuilleton. Et si vous voulez revoir, c'est disponible sur le site de Lina Madeleine.
Merci beaucoup Benoît, merci d'avoir appelé Christine Delaroche qui a joué dans un épisode de
Chapeau Melon et Bottes de Cuir.
Personne ne connaissait que la série, je vais changer l'équipe. Les miroirs, une chronique à réécouter en podcast, ainsi bien évidemment qu'une heure en série. Deuxième débat consacré à l'agent immobilier, une mini-série de 4 épisodes diffusée sur arte.tv jusqu'au 5 juin. Olivier est un agent immobilier à la dérive. Depuis leur séparation, son ex-femme ne veut plus lui adresser la parole. Sa fille ne croit plus un traître mot de ses nombreuses promesses qu'il ne tient jamais. Son agence périclite, il est obligé de squatter les appartements qu'il est censé vendre sans grande conviction. Et son père, un alcoolique fier de l'être, sème le bordel dans la maison de retraite où son fils l'a placé. Et pour couronner le tout, il doit rembourser les dettes de son meilleur ami. Bref, dans le registre loi de l'emmerdement maximum, Olivier a tiré le gros lot. Lorsqu'il hérite de sa mère d'un immeuble situé dans Paris, il espère entrevoir une lueur d'espoir. De courte durée, l'immeuble est vétuste, putride et sous le point de s'écrouler, exactement comme l'existence d'Olivier. Il voudrait vendre l'édifice, mais une vieille locatrice habitant au dernier étage compromet ses projets. Ajoutez à tout cela un SDF qui lui colle au basque, un agent de biens israélien, un poisson rouge qui lui parle et des voyages dans le temps qui le ramènent dans les années 70, et vous obtiendrez une mini-série à la fois fantastique, poétique, surréaliste et absurde, pour le moins atypique.
J'ai hérité d'un immeuble avenue du Général Brunet. Et j'envisage de le vendre.
Je vous en donne 5 millions.
Et pas de locataire.
Oh, je suis le nouveau propriétaire de cet immeuble.
Vous propriétaire?
Les choses se compliquent un peu avec la locataire.
Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué à virer une vieille?
Je vais nulle part, vieille chienne! C'est mon immeuble! Je vais y rester jusqu'à ce que vous dégagiez!
Toute ma vie, j'ai fait ce que j'ai pu. Tu crois que j'aurais pu faire mieux?
C'est une histoire un peu dingue.
Pour te parler, papa, je suis en plein dans ton éloge funèbre.
Excusez-moi, c'était un appel important. C'était le président de la République qui voulait rendre un hommage aux défunts.
On installe un jacuzzi.
Court extrait de la bande-annonce, tout à fait dans le ton absurde et frappadingue de cette série créée par Edgar Keret et Shira Geffen, auteur israélien et réalisateur des Méduses, caméra d'or au Festival de Cannes 2007, avec dans le rôle du personnage du père Eddie Mitchell et dans celui du rôle-titre, un anti-héros hagard, parano et dépassé, le juste, mais ça n'engage que moi, génial et époustouflant, Mathieu Amalric. Petit point du côté de la presse qui est assez positive. Pour le point, l'écrivain israélien Edgar Keret signe avec sa femme Shira Geffen un feuilleton inclassable avec un Mathieu Amalric déchaîné, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour Télérama, la série dynamite joyeusement le quotidien de son héros fissuré à l'aide d'un surréalisme drôle et grinçant qui évoque autant Kafka que certains films de Bertrand Blier. C'est très juste. Ariane,
Oui, bah écoutez, moi je partage totalement votre enthousiasme, Xavier. Je pense que c'est, on peut vraiment appeler ça une série originale au sens propre comme au sens figuré, d'ailleurs. Vous avez évoqué Blié. Moi, curieusement, j'ai pensé plutôt à une version comique du locataire de Polanski. voilà, au moins inquiétant, mais il y a quand même de ça, puisque c'est un personnage qui est hanté et qui se retrouve dans un lieu également hanté, avec des disruptions comme ça entre le passé et le présent. Je dirais que c'est une fable qui est joliment surréaliste, à la fois sur le deuil d'ailleurs et sur la résilience, qui est tapissée, comme vous l'avez dit, de scènes à la fois poétiques, fantastiques. Moi, elle m'a enchantée par son goût de l'absurde, par ses personnages décalés et par sa fantaisie, je dirais, mélancolique et mélancomique, même pour reprendre le mot de Gainsbourg. Et puis surtout, alors moi je suis comme vous, je trouve qu'elle épouse mais vraiment admirablement bien le jeu de Mathieu Amalric, qui est un jeu très singulier parce que c'est un jeu comico-dépressif, on va dire, qui est à la fois exubérant, baroque, très physique. D'ailleurs, il a rarement été aussi burlesque. Il passe son temps à tomber, à chuter, à se prendre des gadins. On l'a déjà vu faire ça dans d'autres films, hein, le plus connu étant Le Conte de Noël d'Arnaud Desplechin. Il tombe très très bien, Mathieu Amalric. Il est aussi à tomber, je trouve, puisqu'il y a à peu près tous les plans. Et franchement, on ne s'en lasse pas. Moi, j'ai été complètement enchantée, mais littéralement, par cette fable.
Ava, êtes-vous du côté d'Ariane et du mien, effectivement, ou alors êtes-vous peut-être plus dissonante, comme à votre accoutumée ?
Eh bien, pas du tout dissonante, non, je rejoins parfaitement votre enthousiasme, mais vous me prenez par les sentiments, moi, avec une série comme ça, hein. Des personnages borderline, des névroses à tous les étages, ce qu'il faut d'absurde, un humour qui décape, c'est vendu. Alors, des histoires sur un type qui chute, on en a vu des centaines, et d'ailleurs, la barre verticale du T, du mot « agent » dans le titre, s'étire, hein, indiquant dès le générique la trajectoire descendante du héros. Mais ce qui rend cette histoire-ci plus intéressante et originale que les autres, c'est qu'elle pense le rebond, c'est ce que tu disais, Ariane. Et la série est passionnante dans sa construction par étage, par cascade. C'est vraiment une très belle réflexion, à la fois poétique et singulière sur la famille, sur les démons intérieurs, sur la reconstruction psychologique, et c'est conçu comme un puzzle dont chaque pièce est matérialisée. Et la cicatrisation, la réparation de toutes ces pièces va alimenter chaque épisode, qui, pour mon plus grand plaisir, hein, pratique la digression comme un art. On foule les couloirs du temps, on foule plusieurs dimensions très intimes. Et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que le personnage de Mathieu Amalric, que j'aime beaucoup, s'inscrit dans une tradition de personnages issus de la littérature yiddish, en fait. C'est le personnage du Schlemiel et du Schlimazel, pour le dire en yiddish, c'est-à-dire le maladroit et le malheureux, celui qui a peur que le ciel lui tombe sur la tête, qui n'a rien pour se protéger des coups que la vie lui porte. Un personnage donc qui a toutes les qualités de l'anti-héros, quoi, qui est crado, qui est mal fagoté, qui est décousu, un type qui physiquement porte sur lui la poisse et le drame. Et cet immeuble décrépit dont le héros hérite est évidemment le symbole, voilà, des souvenirs, du refoulé, des fantasmes d'Olivier, qui était un petit garçon plein d'imagination, qui a perdu le fil de sa vie et qui en veut à sa mère de ne jamais lui avoir témoigné d'affection.
Donc, on n'en voilà, dit profond. Pas plus, Ava.
Non, oui, tu dis trop de choses.
Pardon, j'en dis pas plus, mais voilà, c'est profond, c'est barré, c'est très drôle. Et effectivement, le coup du poisson qui parle, voilà. Je suis fan, Freud avec des nageoires, c'est magnifique.
J'adore l'expression. Benoît, est-ce que vous allez nous rejoindre dans cette, pour l'instant, unanimité, ou est-ce que vous allez jouer les électrons libres et les troublions ?
Alors moi, je suis pas du tout, mais alors pas du tout d'accord. Hein. Vous parliez de personnages qui tombent. C'est là, pour moi, c'est la série qui tombe. Et elle tombe dans un aquarium et elle parle avec ce poisson rouge qui est complètement idiot et insupportable. Donc non, vraiment, alors là, moi, je vous rejoins pas du tout. Je me suis ennuyé comme pas possible dans cette série qui n'en est pas une. Bon, alors c'est difficile d'évoquer. J'aime bien Mathieu Amalric dans ce rôle, donc pourquoi pas. Mais je trouve que tout ce mystère, toute cette étrangeté, tout cet absurde, surtout, je le vois venir gros comme une maison dès le départ. Donc en fait, je vois ce que ça raconte. Bah oui, il y a le deuil autour d'une mère, bon ben d'accord, on a compris. Donc on n'a pas besoin de nous raconter tout ça de cette manière-là. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à du Léos Carax sans la dimension poétique au punk, à du Jean-Pierre Jeunet sans les effets montagnes russes. Bref, ça rate tout ce que ça tente. Le voyage dans le temps, Arte nous avait déjà fait le coup, par exemple avec Il était une seconde fois, et la mini-série Denis Clou, il y a quelques mois, ils sont dégagés là une certaine émotion. Ici, rien du tout. Moi, le problème, c'est que ce personnage, je sais dès le départ qu'il va tomber. On en a tellement des personnages maintenant dans les séries comme ça qu'on voit dégringoler, que de toute façon, on sait qu'ils veulent dégringoler, et qu'il ne m'émeut jamais. Et en plus, ça a la prétention de nous vendre une série, alors que c'est un long film. Ça aurait été un joli film d'une heure et demie, poétique, comme vous l'avez décrit, sans doute, là, en série, avec les faux cliffhanger de fin d'épisode qui, où en gros, on nous prend pour des idiots en nous expliquant que, eh, vous voyez, on sait faire une série. Eh ben non, mes amis, vous savez pas faire une série. Alors revenez au roman ou revenez au cinéma, mais arrêtez de polluer la télévision avec ça. Non, vraiment, j'ai été en colère contre cette série.
Bon, bah, vous ne signerez pas de bail avec cet agent immobilier, on l'a bien compris, mais je crois qu'en ce qui nous concerne, Avarian et moi-même, ouais, en revanche, nous signons dès demain l'agent immobilier, donc disponible dans son intégralité, sur arte.tv jusqu'au 5 juin. Happy on her own, and she picks up all the pieces. She's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Nous venons d'écouter Home, maison, évidemment, de Caribou, au titre de Daniel Snaith, plus communément donc appelé Caribou, un titre très soul, composé autour d'un sample d'un morceau de Gloria Barnes sorti en 1971. C'est le premier extrait du 7e album de cet ex-mathématicien canadien, docteur diplômé de l'Imperial College de Londres, comme quoi tout mène à tout dans les grandes études.
France Inter, une heure en série.
Allez, je me permets de glisser un petit conseil littéraire au cœur de cette émission. Si vous êtes tombé comme Ariane, comme Ava ou comme moi, sous le charme de l'univers fantasmagorique et transgressif de l'agent immobilier, un petit conseil donc. Les éditions de L'Olivier viennent juste de sortir le tout nouveau recueil de nouvelles d'Edgar Keret intitulé « Incident au fond de la galaxie ». Un homme veut que son ami lui écrive une nouvelle qui lui permette de mettre des femmes dans son lit. Vous pourriez la lire par exemple, je ne sais pas, Benoît, ça
pourrait
conspirer. Oui, avec l'auteur, un père qui a promis à son fils de lui offrir le cadeau de ses rêves, voit son rejeton faire un caprice pour partir avec la caisse enregistreuse du magasin de jouets. Deux petites sœurs sont convaincues que le lapin qu'elles viennent de recueillir n'est autre que la réincarnation de leur père. Ou après encore un accident de voiture, un homme amnésique accepte de reconstituer sa mémoire défaillante grâce à une pièce virtuelle où lui apparaît l'ombre d'une femme superbe. Des récits brefs, concis, servis par un style tout en poésie et inquiétude, des textes où il est question de poissons rouges, de pères défaillants, d'extraterrestres ou encore de réincarnation d'Hitler. On croirait les histoires disposées de manière aléatoire, mais en réalité par un jeu très raffiné d'échos et d'images récurrentes. Ava a parlé de puzzle et c'est tout à fait cela. L'ensemble compose une narration en réalité très cohérente, à la fois absurde, cocasse, hilarante parfois, souvent taraudée par une véritable inquiétude, une anxiété qui est celle de notre vie, de notre dimension humaine, de notre place sur Terre et de notre destinée. Derrière un humour acide et baroque se tapissent toutes nos peurs et en particulier celle de l'auteur Edgar Keret. Faussement léger, superbement profond et brillamment écrit, à signaler également l'excellence de la traduction signée Rosie Pinas Delpouech. Vous êtes toujours dans une heure en série sur France Inter avec Ariane Allard, Ava Gaëlle et Benoît Lagan, à qui nous ne parlons plus puisqu'il n'a pas aimé l'agent immobilier.
Oh, voilà.
C'est l'heure du troisième débat. J'ai le droit, c'est moi qui dirige l'émission. Nous allons évoquer en petite séance de rattrapage la série israélienne en 10 épisodes sur Canal+, série Nehama. Tout commence sur une route où une voiture glisse sur le toit avec en arrière-fond, en guise de bande originale, une joyeuse balade italienne. Premier contrepoint insolite pour une scène d'ouverture plutôt tragique, puisque de la voiture accidentée s'extirpe une femme qui a juste le temps d'envoyer un message à son mari avant de mourir. Neama, du nom de son héros, va donc raconter l'histoire d'un jeune veuf et de ses 5 enfants. Un paradigme d'anti-héros abordant éternellement un pull marin informe, un hypochondriaque de niveau olympique se révélant son humoriste de stand-up, une sorte de Stéphane Guillon, égocentrique et mélancolique et drôle, c'est la différence. Les doigts se font tenter en attendant que la gloire d'aille sonner à sa porte d'un boulot peu valorisant qu'il exécute sous les ordres d'un patron lâche et incompétent. Comment remonter sur scène quand on a le trac et un humour que ne partage pas tout le monde? Comment élever des enfants alors qu'on ne l'a jamais fait jusque-là? Et comment subvenir à leurs besoins quand on a une farouche tendance à inviter son patron à se fourrer un parapluie dans le cul? C'est pas moi, c'est l'auteur qui dit cela. La vie, l'amour et la mort dans une série tragique et hilarante portée par une dose hyper vitaminée de dialogues acides et hilarants que vous n'entendrez peut-être pas dans l'extrait de la bande-annonce que nous allons diffuser, qui est donc en hébreu, mais franchement, faites-nous confiance, allez-y.
כמו עבדים, מי אמר פה את האמת ללקוח בזמן האחרון?
Une série présentée l'an dernier à Cannes Série, vous savez, ces petites manifestations où il y avait du monde, où on sortait dehors, enfin bon, bref, un autre temps. Sorte d'autoportrait déformé signé Rechef Lévy, scénariste, dramaturge, réalisateur, producteur, écrivain, comédien et présentateur de télévision en Israël et père de 7 enfants. Côté presse, c'est un carton plein. Le Figaro parle d'une réflexion sur le deuil et la résilience. Neama est aussi une exaltation du verbe et du pouvoir de l'imagination. Et c'est très vrai. Télérama parle d'une tragicomédie débordante de générosité. Neama parvient à susciter, parfois dans une même scène, embarras, émotion et hilarité pour les Arocs. Une série israélienne qui évite l'écueil de la complaisance autofictionnelle par sa fulgurante qualité d'écriture. Et évidemment, on pense à Woody Allen. Et évidemment, quand on pense à Woody Allen, on pense à Ava Cahen. Je vous cède la parole, cher Ava.
Oui, non, c'est une série que je trouve très sympathique, à la fois drôle et touchante, qui fait le portrait d'un homme complexe qui dit à qui veut l'entendre qu'il est l'homme le plus drôle d'Israël. Alors, vous disiez Xavier Stéphane Guillon, moi je vous le vois comme le Seinfeld du pays. On découvre un personnage nonchalant, mais charmant, père de famille aimant, mais absent, fou amoureux de sa femme, même si les beaux yeux de sa collaboratrice de bureau ne le laissent pas indifférent. Un type normal à quelques exceptions près, il est totalement hypochondriaque comme Woody Allen, et comme Woody Allen, effectivement, il veut remonter en scène après des années d'absence. Le stand-up, c'est toute sa vie, sauf que coup de théâtre, vous le disiez, l'accident de sa femme. Alors, c'est une série qui montre que la vie n'est pas, évidemment, un long fleuve tranquille, qu'elle est constamment secouée par des événements mineurs, majeurs, joyeux ou tristes, qui en bouleversent le sens. Et Guy est un personnage souvent empêché, interrompu, dérangé, que ce soit avant d'entrer en scène, que ce soit quand il traîne au club de stand-up avec le gérant et les autres comiques, tous fumeurs de joint. On baigne vraiment dans la culture du stoner movie. Mais il est aussi réveillé à chaque fois qu'il fait la sieste. Évidemment, sa flopée d'enfants lui laisse très peu d'instants et d'espace de tranquillité. Donc, on est dans l'esprit, pour faire une synthèse, on est à mi-chemin entre les frères Cohen, Ven Serious Man, la fable yiddish, l'alliance de la trivialité et de la gravité, et Wes Anderson, le Ven Famille Tenenbaum, pour le côté famille tribu, dysfonctionnelle, aimable, et pour l'usage de la musique. Et puis, il y a clairement un épisode, je crois que c'est le 9e ou le 10e, qui est presque tout entier une citation à Harry dans tous ses états, de Woody Allen, avec l'apparition de la faucheuse, bref, qui était déjà un clin d'œil à Bergman. Donc voilà, on est typiquement dans des références et un humour à la fois très européen et américain, même new-yorkais, et c'est très plaisant.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Benoît, est-ce que vous nous rejoignez pour une fois ?
Pour une fois, je suis souvent d'accord avec vous. Et là, je suis complètement d'accord avec vous. Parce que justement, ce personnage, il nous émeut dans toutes les situations, où qu'il soit. C'est vraiment une grande série sur la masculinité, la famille moderne. Il y a beaucoup de séries autour de la figure du stand-upper. Et je trouve que sauf que souvent, dans les séries qui mettent en scène des personnages de stand-up, on leur invente une vie qui se rapproche presque de celle qu'il raconte sur scène. Or, lui, sa vie à lui, elle est vraiment, finalement, somme toute, assez classique d'un père veuf qui doit s'occuper de ses 5 gamins, qui est empêché, comme tu dis si bien, Ava. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et j'ai beaucoup aussi aimé la dimension du conteur, voilà, parce que dans chaque épisode, il y a une... Alors, lui et pas que lui d'ailleurs,
ouais.
qui compte. D'ailleurs, la série s'appelle Nehama et pas Guy Nehama, et pas Louis par exemple, comme Louis C.K. Nehama, parce que Nehama c'est la famille. Et que donc, il n'y a pas que lui au fond qui est abordé dans cette série, il y a lui, mais il y a aussi sa femme dans un épisode, son frère, sa fille. Donc je trouve ça vraiment une série chorale. Pour moi, c'est un peu comme si This Is Us avait rencontré Mrs. Maisel en analyse et Papa Poule.
Ça, moi, je dis, il a réussi à nous refourguer Papa Poule.
Il
travaille sur lui-même quand même, hein, Gerbenet. Il y a eu autre chose depuis Papa Poule. Ariane.
Oui, bah écoutez, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais faire plus court. Moi, je trouve que tout simplement, Nehama, ça confirme quand même un truc incroyable, c'est la vigueur, l'originalité. Ouais. Et la fulgurance des séries israéliennes et leur crudité. Donc, ils n'hésitent absolument pas à s'attaquer à des sujets quand même. Alors là, bien sûr, c'est à la fois la paternité, comme l'a souligné Benoît, tout petit peu obsédé par cette thématique, mais aussi le deuil et aussi la résilience, parce qu'on parle quand même d'un grand enfant qui ne s'occupait absolument pas ni de ses enfants, ni même de la gestion de la maison, et qui petit à petit, par cette tragédie au départ, par ce coup du sort, va petit à petit commencer à prendre des responsabilités tout en s'autorisant à aller jusqu'au bout de son rêve, parce que c'est ça aussi. Vous parliez tout à l'heure, Xavier, avec raison, de l'exaltation du verbe, mais c'est aussi l'exaltation de l'imagination. Nehama est non seulement un humoriste, mais c'est un conteur, et l'écriture de cette série est quand même d'une grande liberté. Moi, j'aime beaucoup ça aussi. Il y a des moments où on part dans des scénettes complètement improbables, où on se retrouve dans la culture yiddish, avec des scénettes dans le shtetl, enfin des choses comme ça que, voilà, qui n'ont rien à voir avec le récit principal. En même temps, c'est un peu le bordel, il faut bien le dire. C'est la pagaille à l'image de la vie de Nehama. Et comme c'est écrit à la première personne, on reste quand même collé à lui, à son point de vue. C'est une grande finesse. Ça mélange des moments d'absurde, des moments de tendresse, des moments drôles. C'est, en fait, pour moi, c'est une série hyper sensible. Et très honnêtement, je pense que c'est une des meilleures séries de la semaine à voir.
Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous et je crois que nous le sommes tous. Nehama, donc sur Canal+, série à découvrir vraiment cette petite pépite.
Comment est ta peine? Est-ce qu'elle te suscite?
Nous venons d'écouter « Comment est ta peine » de Benjamin Biolay, le premier extrait du tout nouvel album de Benjamin Biolay, Grand Prix, qui sortira le 26 juin prochain. « Comment est ta peine ? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Il faudrait qu'on apprenne à vivre avec ça. » Un superbe texte en écho à ce printemps confiné. À noter en bonus que « Comment est ta peine ?» fait entendre la douce voix de l'actrice Anaïs Desmoutiers dans les chœurs.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure du plateau télé. On va faire court, les enfants, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Wow. Mais on va faire profond. On va faire avec, évidemment, de l'argumentation. Et on commence avec Ava, qui nous propose une petite séance d'éducation sexuelle, Sex Education, sur Netflix.
Absolument, je pense à vous et je me suis dit qu'une petite remise à niveau pour les plus expérimentés des bases du Kama Sutra et pour les novices des gestes de première nécessité sexuelle, comme par exemple apprendre à mettre une capote ou savoir où se trouve un clitoris, c'était pas trop. Donc cette série cru, mais pas cucu, comme l'a écrit Télérama, a été créée par Laurie Nin, scénariste anglaise, et je précise sa nationalité parce qu'on sent bien qu'on est ici dans une série britannique. Hein. L'humour y est mordant et chaque épisode parvient à rendre signifiant ce qui peut paraître trivial pour beaucoup, c'est-à-dire le sexe. On est dans un cadre familier, celui des années lycées et des premières fois. On est invité dans la campagne anglaise à suivre les aventures d'un adolescent de 16 ans prénommé Otis, complexé, puceau, fils d'une sex-thérapeute hein, qui a les traits décomplexés, maman interprétée par la formidable Gillian Anderson, un ado donc relativement invisible, mais toujours accompagné de son meilleur ami gay et noir, plus exubérant que lui, mais pas plus populaire. Mais tout change quand Otis fait la rencontre de Maeve, lycéenne au look d'Harley Quinn à la réputation sulfureuse, et ensemble, ils vont développer un business clandestin, faire payer leurs camarades de classe pour des séances de psy improvisées dans les toilettes du lycée, dans le but de les délivrer de leurs angoisses et hontes liées au sexe. Et évidemment, ce qui est cocasse, c'est que celui qui prodigue ses conseils, ses précieux conseils sexos, n'a jamais goûté aux fruits défendus et n'arrive même pas à se câliner lui-même. Donc, au programme de ces deux saisons, allons-y, MST, vaginisme, masturbation féminine et masculine, consentement, avortement, fellation et poire à lavement. Oui, l'hygiène corporelle, c'est important. Donc, on pourrait croire que évidemment, comptez sur moi. On peut croire que la série ne s'adresse qu'aux millennials, comme on dit, mais elle est plus inclusive que ça. Elle met en scène des personnages de plusieurs milieux sociaux, de plusieurs générations. Les adultes ne sont pas laissés hors champ. On découvre épisode après épisode une réjouissante galerie de personnages et la série décline toutes les couleurs de l'arc-en-ciel LGBT. Vous l'aurez compris, joie et bonheur, allez-y. Ça s'appelle Sex Education et il y a 2 saisons de 2x8 épisodes.
Que je trouve toutes les deux très réussies. Il y a même une intrigue dans la 2e saison sur le harcèlement sexuel
Absolument.
Dans les lieux publics qui est extrêmement bien écrit sur le déni justement de la victime jusqu'au moment où elle prend conscience effectivement qu'elle a été victime d'un attouchement et qu'elle a le droit de refuser cela. Grande série. Ariane, Mindhunter, également sur Netflix. Autre grande série, évidemment.
Oui, Xavier, alors Mindhunter, c'est une série que j'ai trouvée totalement captivante, que j'ai redécouverte sur Netflix à la faveur du confinement. Donc, merci le confinement, en tout cas, en l'occurrence pour moi. Pour mémoire, et pour vous faire un peu saliver, je rappelle juste d'emblée que son maître d'œuvre et son co-réalisateur n'est autre que David Fincher. Oui, le cinéaste de Zodiac, ce thriller magistral qui est dédié à l'un des plus insaisissables tueurs en série qui ait jamais sévi aux États-Unis. Et ça n'est évidemment pas un hasard si on retrouve le dit Fincher aux manettes de Mindhunter. Ces 2 saisons et ces 19 épisodes racontent tout simplement, en effet, la naissance du profilage criminel. Alors précisément, la série adapte pour l'écran et de façon fictionnelle le travail de recherche, bien réel lui, de 2 agents du FBI à la fin des années 70 et au début des années 80. C'est eux, de fait, qui ont élaboré le concept de serial killer qui a fait florès depuis, et cela d'une manière tout à fait nouvelle, même révolutionnaire, puisqu'ils se sont entretenus avec plusieurs tueurs en série, célèbre et enfermé à vie aux États-Unis, l'idée étant de tenter à travers ces entretiens de comprendre comment fonctionnent ces meurtriers, leur schéma, leur mode opératoire, pour mieux dresser des profils types et incidemment résoudre les affaires criminelles. Alors ouais, je sais bien ce que vous allez me dire, des agents du FBI, des psychopathes, des meurtres atroces, tout ça évoque au mieux une série policière, disons, classique, sauf que non, mais alors pas du tout. D'abord parce que dans Mindhunter, l'enjeu n'est pas l'action, mais la réflexion. Dans la tête d'un tueur en série, c'est ça la proposition radicale de cette série, donc à contre-courant, qui nous montre en fait essentiellement 2 hommes en costard-cravate, les agents Ford et Tench, armés d'un magnétophone, qui se prêtent à de longues scènes de dialogue avec une poignée de tueurs en série dans des espaces bouclés, déserts et confinés. Donc a priori, rien de glamour. Pourtant, la tension est de mise, mais tout le long de ces échanges palpitants qui sont remarquablement mis en scène, remarquablement découpés et remarquablement interprétés. Et mieux encore, c'est ces dialogues qui sont tour à tour effrayants, manipulateurs et vertigineux qui tiennent lieu d'actions. Des actions qui sont saisies dans une lumière en plus verdâtre, mais rien de morbide pour autant. Et c'est ça la deuxième grande qualité de ces séries, de cette série, pardon. Elle évite de bout en bout la passion malsaine pour ces meurtriers singuliers, ceux-là même qui déplacent, voire redéfinissent la frontière entre le bien et le mal, comme entre l'humain et le monstre. À aucun moment, la réalisation soignée, méthodique, voire clinique de David Fincher ne glorifie ces tueurs. En revanche, elle montre à quel point la frontière entre eux et nous peut être ténue. Bref, si Mindhunter fascine autant, c'est qu'elle parvient, comme aucune autre série, je trouve, à déconstruire notre fascination pour le fait divers en général et pour la noirceur opaque en particulier.
Merci beaucoup, Ariane Mindhunter sur Netflix. Benoît, Ariane, vous êtes très gentiment laissé 35 secondes, 36, allez, soyons généreux, pour nous parler de Stalk sur France TV. Excellent choix.
Oui, donc série sur la plateforme de France Télé, l'histoire de Lucas alias Lux qui entre dans une école d'informatique très prestigieuse. Il est l'un des plus brillants de tous les étudiants du campus. Il est aussi livreur à vélo et à algorithme au passage. Alors après un bizutage humilié, Lux ne supporte pas de se retrouver à l'heure des réseaux sociaux, de n'être qu'aux yeux des autres uniquement Pipi, l'étudiant bourré à qui on a fait boire de la pisse lors d'une soirée trop arrosée, et il décide donc de se venger et de stalker, c'est-à-dire espionner les autres, en entrant dans leur téléphone portable et ordinateur pour se venger, bien évidemment, de ses bizuteurs. Le problème, c'est que très vite, Lux va être dépassé par sa vengeance. C'est une série qu'il faut voir, vraiment, tout le monde peut la regarder, parce que c'est sur France TV slash, on pourrait penser que c'est une série pour les étudiants, les jeunes adultes ou les ados. Vraiment, c'est visible par tout le monde, parce que c'est une grande série sur la vengeance, et c'est un grand thriller. Et puis c'est comme dans une série médicale ou judiciaire où même les nuls en bio et en droit comprennent vaguement les enjeux. Et ben là, si on est nul en informatique et que c'est pas votre truc, vous inquiétez pas, vous allez quand même comprendre tous les enjeux. C'est une description du monde étudiant à l'heure des réseaux sociaux très bien racontée, sans jugement moral. Et puis surtout, voilà, on est dans le thriller, ça tient de bout en bout pendant 10 épisodes et les jeunes comédiens sont tous parfaits, en particulier Théo Fernandez dans le rôle de Lux, et Carmen Katsowitz, la fille d'eux, qui touche là, tout en finesse, ce rôle d'étudiante un peu perdu. Donc, une série qui nous touche, où l'humanité l'emporte toujours sur la technologie, et c'est vraiment à voir, et c'est français, et c'est sur France Télé slash, une plateforme à suivre. Franchement, tout ce qu'ils font, c'est super.
On est entièrement d'accord. Merci à tous les trois pour cet excellent plateau télé. Une heure en série en mode confiné, c'est fini. Merci à nos trois participants d'y avoir apporté autant de brillance et de talent. Merci à vous toutes et tous de l'avoir écouté. Cette semaine, nous vous avons recommandé ou pas, il y a eu des avis divergents, et c'est tant mieux. Hollywood sur Netflix, L'Agent Immobilier sur Arte et Neama sur Canal Plus série. La semaine prochaine, nous évoquerons Validé sur Canal Plus et The Eddie sur Netflix. Je vous donne rendez-vous également à 11h et 20h demain avec Jérôme Garcin et son Masque et la Plume consacré cette semaine à la littérature. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, tout comme la chronique de Benoît Layanne, Un effet miroir. Formidable cette semaine sur Belphégor. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer évidemment du courrier. Cette semaine, l'émission était réalisée par David Leprince, la programmation musicale assurée par Muriel Pérez, et j'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi.